France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons donc ce matin le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, l'APHP, 39 hôpitaux en Île-de-France. Il revient dans l'énigme du nénuphar face au virus, publié aux éditions Stock, sur la première vague de l'épidémie de Covid qui a frappé la France et son système hospitalier. Martin Hirsch, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. Ce livre, c'est votre journal de bord du Covid et d'une crise sanitaire inédite, une sorte de reportage au jour le jour, en très léger différé. On vous suit pas à pas dans les coulisses des services débordés des hôpitaux, dans les coulisses des réunions de crise. Tous les matins, vous écriviez un mail aux 100 000 personnels de l'APHP. Le soir, vous vous enregistriez vous-même sur votre téléphone, des messages vocaux. Tout est là, retranscrit. Les victoires, l'angoisse, parfois le désespoir. C'est publié brut de décoffrage. Pourquoi ? Première question. Avoir voulu publier ce livre aujourd'hui, donnez votre version, votre vérité aussi, alors que l'épidémie n'est pas terminée, qu'on est encore dedans, qu'on parle d'une possible deuxième vague. Pourquoi ne pas avoir attendu la fin totale de la crise ?
Moi, il me semblait utile de pouvoir rétablir un certain nombre de choses, de donner un point de vue. On entend beaucoup de points de vue. Le point de vue de ce qu'on a vécu dans les hôpitaux, et notamment par rapport à ce que j'ai entendu. J'ai entendu qu'on remettait en cause toutes les évacuations sanitaires qui ont eu lieu en considérant que c'était des opérations paillettes. J'ai voulu qu'on sache pourquoi on l'avait fait, dans quelles conditions on l'avait fait. Je pense que personne ne sait qu'on a préparé ces évacuations sanitaires à cause des attentats de 2015, très sérieusement, quand on s'est aperçu qu'en région Île-de-France, on pouvait avoir nos services très mobilisés. Et on s'est dit, s'il y a un attentat dans une région dans laquelle il y a moins de services de réanimation, comment on fait ? Donc tout ça, ce travail, c'est pas une improvisation en se disant comment est-ce qu'on peut s'amuser. Donc c'est ce genre de choses, quand j'entends dire que on aurait trié les patients, voilà, il m'a semblé utile, y compris, je ne sais pas quand aura lieu la fin. Au contraire, il y a un besoin de se mobiliser, de comprendre, de décortiquer et de donner les éléments aux gens pour juger sur pièce et pas juger sur fantasme.
Donc c'est un livre d'un homme en colère, d'une certaine manière, contre ce qu'il a entendu alors qu'il était les mains dans le cambouis, en train de gérer. On va parler des moments de désespoir, des moments de souffrance, des soignants, de vous, etc. Et vous avez été blessé par ce que vous avez entendu parfois sur certaines antennes ?
Oui, moi, mes blessures individuelles, tout le monde s'en tape et je cherche pas à savoir si je suis blessé ou en colère. En revanche, je pense que on a chacun des responsabilités dans les discours qu'on fait passer. Et effectivement, j'évoque ces questions. On est en cellule de crise, on essaie de travailler collectivement. On voit un tel qui dit tout d'un coup des choses qui sont pas exactement ce qu'on dit globalement. Je pense que dans la période actuelle et en préparation de ce qui se passe aujourd'hui et qui montre qu'on est toujours face au virus, je pense qu'on a intérêt collectivement peut-être à tirer des enseignements, et je pense qu'il faut mesurer le fait qu'une parole au micro de dire ceci sur les jeunes ou ceci sur les masques ou ceci sur l'hydroxychloroquine a un impact majeur. Ces paroles ont un impact, elles contribuent à l'évolution de l'épidémie.
D'ailleurs, vous dites attention.
C'est pas les commentateurs.
Oui. Attention à l'attention de vos collègues, parce que certains des médecins dont vous parlez, qui sont allés dans les médias pour parler, viennent de la PHP, sont certains de chez vous aussi. En gros, c'est un message pour eux, c'est ça que
je pense qu'il y a un message pour tout le monde, il y a un message pour nous-mêmes. Moi, je ne fais pas partie. Ce livre n'est pas le livre, comme on en trouve quelques-uns, des livres de ceux qui disent j'ai eu raison et tous les autres sont des couillons. Moi, je pense que, globalement, la thèse de ce livre, c'est que personne n'a eu la clairvoyance absolue en janvier de dire il faut faire cela. Donc on s'est chacun adapté avec des choses qu'il faut corriger à la rentrée par rapport à ce qu'on a vécu au printemps.
Il y a des pages prenantes et même angoissantes dans ce livre. Vous nous faites vivre jour après jour la montée des flots depuis la mi-mars, puis l'arrivée de la vague, jusqu'à ce que vous appelez la pire journée, le 31 mars, où la PHP n'a plus de lit disponible. À 1h du matin, le 1er avril, on vous appelle, je cite, « Il y a zéro place, zéro, zéro, zéro. J'ai un patient à longs jumeaux, je ne sais pas où lui dire d'aller, il n'y a plus aucune place. » Fin de citation. C'est un moment terrible dans le livre. Le système, ce jour-là, Martin Hirsch, a atteint ses limites, il est saturé.
Le système est saturé, mais la désaturation a commencé. C'est ça, quelques jours auparavant, on lance un appel, on obtient quelques jours auparavant la possibilité de faire des évacuations sanitaires, la possibilité de réquisitionner des renforts de province. Donc, on atteint à la fois la limite extrême, ce temps qu'on redoutait depuis tout le temps, en se disant « il va arriver, mais comment on peut faire pour qu'il n'arrive pas ?» Et au même moment, le lendemain, il y a les premiers TGV qui partent.
Vous avez cette phrase terrible. On se vante de notre expertise médicale en France. On dit qu'on a beaucoup de moyens, qu'on a beaucoup de savoir-faire, alors qu'en fait, on gère mal cette crise et on aurait pu éviter des morts. Vraiment, on aurait pu éviter des morts? On a mal géré cette crise?
Alors, je vais être un peu plus pondéré que ce que je dis.
Qu'est-ce que vous écrivez?
Quand on lit le livre... On est dans le feu de l'action toute la journée, puis il y a des moments où on se dit, mais le livre n'est pas exempt de quelques jurons, on se dit, mais pourquoi est-ce que en Corée, dans d'autres pays, etc. Donc on se pose des tas de questions. On n'est pas enfermé à simplement regarder les choses. On a en tout cas évité un grand nombre de morts. C'est la première chose qu'il faut dire. C'est-à-dire que dans le débat qui existe toujours en disant est-ce qu'on en a trop fait, est-ce qu'on n'aurait pas dû confiner tout le territoire, regardez, il y a des régions qui étaient tranquilles, le fait qu'on ait confiné France entière a sauvé un grand nombre de vies. Voilà. Ensuite, on se dit effectivement, moi je le disais pour les personnels de la paix, on a eu 5 morts parmi les personnels de la paix. La possibilité de mettre un masque tout le temps, y compris dans les transports, elle apparaît plus tard qu'on aurait souhaité le faire. Et c'est ce genre de choses qu'on rumine à peu près tous les soirs, oui.
Vous listez les erreurs, vous dites erreur de l'OMS qui a sous-estimé la gravité de la maladie début janvier, erreur de la France qui n'a pas regardé sérieusement ce qui se passait en Italie 15 jours avant, erreur sur les masques, vous le dites aussi. Globalement, vous dites notre système hospitalier qu'on vantait dans le monde entier, dont on était très fiers, et bien finalement il a fait moins bien que l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on
pas
aurait...
le système hospitalier, le système de santé globalement.
Le système de santé globalement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Qu'est-ce qu'il faut faire de mieux à partir de maintenant?
Alors, je pense que le système de santé, c'est pas un système de santé d'un côté et de l'autre une population. Le système de santé et la population, c'est quelque chose, un ensemble. Si je puis dire, on a les performances de santé qu'un peuple ou qu'un pays mérite. Je mets des guillemets là-dedans. Mais non, le système de santé et la population, c'est un tout. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire de mieux, c'est les comportements. Donc, la première chose qu'on peut faire de mieux, c'est arrêter de penser que le comportement du virus a changé. La petite musique, tout d'un coup, il est devenu doux, il s'amuse chez les jeunes, mais il provoque pas d'augmentation du nombre de malades hospitalisés. Ça, c'est faux. En Île-de-France, le nombre de malades hospitalisés augmente. Il double tous les 26 jours. Mmh. Et donc, en fait, ce qui est le plus important, c'est nos comportements. C'est le comportement des soignants, c'est le comportement des médecins, et c'est le comportement de la population. La bataille contre le virus, elle se gagne sur nos comportements. Quand on regarde et qu'on voit que l'adhésion aux gestes barrières a tendance à diminuer, il y a d'un côté le port de masque, puisque tout le monde dit que c'est obligatoire, mais il y a des tas d'autres choses à réaliser et qu'on voit qu'on y croit moins, ça... c'est moins bien faire que... Et c'est ça ce qui permet d'éviter le confinement total.
On va revenir évidemment à la caractérisation du moment dans lequel on se trouve. Mais encore un mot sur ce livre, Martin Hirsch. Expliquez-nous la métaphore du nénuphar qui en fait la trame. C'est une métaphore que votre père vous apprenait, que vous finissez par comprendre là. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et donc, je le raconte parce que le 13 mars... il y a un scientifique qui, pour m'expliquer, me dit « c'est l'énigme du nénuphar ». On est plusieurs dans la pièce. Il y a que moi, je tilte en disant « mais oui, ça me rappelle l'histoire qu'on me racontait des étangs. Si le nénuphar double tous les jours et qu'il a mis plusieurs jours pour couvrir la moitié de l'étang, le jour d'après, il aura couvert tout l'étang. C'est cette dynamique exponentielle. Le virus avait une dynamique exponentielle. C'est-à-dire que, quand, vous savez, le mot R0 qu'on entend tout le temps, le R0 est à 1,2 ou le R0 est à 2, le R0 est à 3. Le R0 était à 3 début mars. Ça veut dire que le nombre de malades triplait régulièrement. C'est cette dynamique exponentielle que illustre le nénuphar.
Vous dites qu'on a assisté pendant la première phase de l'épidémie, et je vous cite, à la jonction entre le populisme politique et le populisme scientifique. Vous réglez notamment vos comptes ou son compte à l'ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, grand soutien du professeur Raoult et de la chloroquine, auteur d'une pétition en leur faveur. Expliquez-nous où vous l'avez vu, cette jonction, et que voulez-vous dire exactement en voyant là deux populismes qui se rencontrent ?
Je trouve que c'est un point aussi très important, parce qu'on n'a pas vu monter le populisme politique qui montait progressivement, et je trouve qu'on a vu émerger, et que jusqu'à présent, la science était une sorte de rationalité contre le populisme. C'est quoi le populisme ? C'est faire croire aux gens que tout est possible n'importe comment, et qu'il n'y a pas des contraintes avec lesquelles on doit faire face, qu'on doit surmonter, mais que ces contraintes existent, sont réelles et sont dictées par le réel. La science aide normalement à la rationalité. Et quand la science devient elle-même irrationnelle et utilise les recettes du populisme, c'est-à-dire à faire semblant de se différencier par rapport aux autres, à considérer que tous les gens sont pourris sauf soi-même, même quand on a le même type de comportement, à faire croire qu'il y a des recettes miracles, à penser qu'effectivement quand 100 000 personnes signent pour l'usage d'un médicament, on devrait l'utiliser plutôt que de regarder en double aveugle ce qui se passe, etc. Ça, c'est quelque chose de nouveau. On a vu des dérives individuelles, on a vu des prix Nobel tout d'un coup dire qu'ils pouvaient soigner les papes avec de la papaye quand ils avaient le Parkinson. On a vu des dérives individuelles. On n'a jamais vu, me semble-t-il, comme on a vu à ce printemps, une pénétration aussi forte sur les comportements d'une attitude
comment
de quelques scientifiques.
Comment vous l'expliquez, Martin Hirsch ? Vous dites, vous inventez un nouveau mot, vous parlez de scientificien populiste.
Comme on dit politicien.
Voilà, un scientificien populiste. A posteriori, à froid et sans esprit polémique, comment vous expliquez le succès du professeur Raoult chez les Français ? Il était inconnu du grand public, ses travaux parlent à ses pairs mais pas aux profanes que nous sommes, et soudainement il arrive à capter une partie des Français qui croient plus en lui qu'en vous, qu'en ce que disent les ministres ou le ministre de la Santé. Comment vous expliquez ça ?
J'explique d'abord ça par sa propre attitude. C'est-à-dire, c'est ce qu'il cherche. Avec un talent absolument remarquable. Il cherche à le faire et il utilise des vieilles ficelles qui sont les ficelles complotistes. C'est-à-dire que c'est très astucieux, c'est très bien fait. La première chose, c'est de dire attention, tous vendus sauf moi, et donc de décrédibilisation du système. Et puis la deuxième chose, c'est de dire vous allez voir, je suis le seul à penser comme vous. C'est la pensée par identification. Je pense comme vous. Vous avez l'habitude d'être critiqué. Si jamais quelqu'un me critique, ça montre que j'ai raison. C'est ce genre d'attitude. Et la population est en général réceptacle. En période de crise, on a envie d'un bouc émissaire, on a envie de solutions faciles, on a envie d'une clé de compréhension. Donc si quelqu'un vous la livre avec en plus l'ambiguïté sur sa légitimité, c'est-à-dire face, je suis comme les grands scientifiques, j'ai le plus grand nombre de publications, j'ai été le plus jeune, etc. Et pile, en fait, je suis plutôt comme vous, je suis la victime du système. Eh bien, ça marche. Et donc, s'il y a un deuxième Raoult, ça marchera aussi bien. Sauf s'il y a un peu plus de responsabilité dans la parole collective.
Alors, justement, de responsabilité dans la parole collective, vous blâmez, on l'entend, le professeur Raoult. Mais quand vous avez des scientifiques que je ne pense pas que vous classeriez dans les populistes, par exemple, hier, je vous donne un exemple très, très, très simple. Hier, à ce micro, Karine Lacombe, chef de service de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, nous dit on est déjà dans la deuxième vague, on est entré dans la deuxième vague, elle ne ressemble pas à celle de mars, mais on y est. Au même moment, sur une autre antenne du service public, sur France Info, le professeur Delfraissy dit non, pas du tout, on n'est pas dans la deuxième vague. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve, que les Français comprennent ? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur là-dedans ?
Il y a une erreur. Il y a une erreur, mais qui est très difficile à rectifier, si je puis dire. Puisque il faut à la fois ne pas censurer. Donc un scientifique peut avoir raison comme les autres. Et donc un scientifique doit avoir la liberté de parole. Mais d'un autre côté, ne pas laisser uniquement par individualisme chacun. Alors la solution à mes yeux, c'est qu'on aide les scientifiques à faire la même chose au micro que ce qu'ils font dans leur laboratoire ou dans leur colloque, c'est-à-dire à faire du collégial. Et à se mettre d'accord sur un certain nombre de messages et à laisser les autres dire. Dans le collège dans lequel j'étais, le groupe dans lequel j'étais, on pense que, la majorité pense que, et moi, permettez-moi de donner mon opinion dissidente. Alors, mais pas d'avoir chaque opinion qui se vaut pour qu'on ne s'y repère plus.
Alors, précisément, parce que j'imagine que vos informations sont issues d'un travail collégial, que nous dites-vous ce matin pour trancher ce débat entre Karine Lacombe et Jean-François Delfraissy ? Sommes-nous en train de vivre une deuxième vague ou est-ce la première qui continue à se déployer une fois que le couvercle du confinement a été levé et que les vacances sont passées ?
Et je ne vais pas arbitrer. Et par ailleurs, une fois qu'on a dit que les termes...
Alors, informer, si vous voulez.
Oui, bien sûr, je vais essayer d'informer. Pourquoi je ne vais pas arbitrer juste sur les termes Karine Lacombe dit c'est une deuxième vague, mais la deuxième vague ne répond pas à la première vague. Et Jean-François Delfraissy dit je vais du coup donner un autre nom à ce qui se passe aujourd'hui. La réalité, telle qu'on la voit dans nos données et dans nos tableaux, c'est qu'aujourd'hui, on a des indicateurs, que ce soit pour le taux de positivité dans la population générale quand on fait des campagnes de dépistage, ou que ce soit pour le nombre d'hospitalisations qui augmente et qui double tous les 26 jours. Rappel au moment le plus chaud du livre, début mars, ça doublait tous les 3 jours. Donc vous voyez, je vous dis deux choses à la fois. À la fois, le fait de dire qu'il y aurait... quelque chose qui se passe dans la population générale et rien dans les hôpitaux n'est pas vrai. Ça augmente dans les hôpitaux, ça double régulièrement dans les hôpitaux. Première information. Donc ne croyez pas ceux qui vous disent que le virus a changé, qu'il est gentil, il se balade gentiment chez les jeunes, mais il ne va pas créer de choses. La moyenne d'âge en réanimation n'a pas diminué, c'est la même que celle qu'on observait au mois de mai. Première information. Et deuxième information, ce temps de doublement est beaucoup plus long que celui qu'on avait à l'acmé de la crise. Donc notre travail collectif, c'est de faire en sorte que ce doublement en 26 jours ne devienne pas un doublement en 15 jours, un doublement en une semaine, un doublement en 3 jours, parce que ça serait le même schéma que le schéma de la mi-mars.
Mais qu'est-ce que vous voyez là par rapport au dernier jour, par rapport à ce retour de vacances? Est-ce que vous avez l'impression que c'est en train de monter de manière exponentielle dans les hôpitaux ou que c'est encore maîtrisé? C'est... parce que tout, pardonnez-moi, mais toute la subtilité.
Exponentielle, maîtrisée. Pardon, non, mais.
Ah oui, bien sûr.
C'est ce que je vous dis. Quand je dis que ça double tous les 26 jours, c'est donc une croissance exponentielle. Quand le pas de doublement est quasiment d'un mois, c'est une croissance maîtrisée et lente. C'est-à-dire qu'on pourrait, si ça ne s'accélère pas, on pourrait imaginer, les hôpitaux ne se satureraient pas. Et qu'est-ce qui peut faire que ça accélère? La non-adhésion aux gestes barrières, le fait qu'effectivement il y a une inconnue dans les 15 prochains jours, grand retour de vacances, plus de monde au travail, plus de lieux de... etc. Donc c'est pour ça qu'il faut les maîtriser. Et c'est pour ça aussi qu'on essaye de faire en sorte que la rapidité des tests, des dépistages, la facilité et l'incitation à être isolé, c'est ça ce qui est fondamental. Si on ne veut pas confiner tout le monde, il faut que ceux qui soient potentiellement contaminants s'écartent de toute vie sociale, ce qui n'est pas drôle du tout, mais qui est la manière de sauver des vies et de sauver sa vie aussi.
Est-ce que vous excluez un reconfinement de certaines zones, par exemple Marseille? Est-ce qu'il faudrait, est-ce que ça vous semble envisageable de... confiner, de reconfiner,
vous
par exemple Marseille.
Vous m'autoriserez à rester sur les données d'Île-de-France et à laisser les autorités sanitaires se prononcer sur Marseille, sur lesquelles je ne vais pas prendre les travers que je dénonce chez certains, c'est-à-dire de s'exprimer à partir de données qu'ils n'ont pas précisément.
Roger est au standard, la parole aux auditeurs de France Inter. Bonjour et bienvenue.
Bonjour à vous.
On vous écoute.
Vous parlez d'isolement de certaines personnes, et là, malgré la réminiscence de cas de Covid-19 dans la région sud-est, eh bien, samedi et dimanche, va partir de Nice le Tour de France, qui représente une caravane, je crois, autour de 5000 personnes, qui va circuler de partout dans la France. Et comme vous le disiez vous-même, là, on a du mal à s'y retrouver, parce que nous, on est prêts à faire tous les efforts du monde. Mais si par ailleurs, on fait de ce genre de manifestation qu'on n'arrivera pas à contrôler, faut pas rêver, là, les bords de route, la caravane, ainsi de suite, les gens qui hurlent au bord des routes. Non, on ne comprend plus, là. Voilà. Je voulais avoir un peu le point de vue de M. Hirsch.
Merci, Roger, pour cette question. Martin Hirsch vous répond.
Non, mais mon point de vue, c'est la chose suivante, quoi. On prend aujourd'hui des mesures restrictives, on oblige à porter des masques dans beaucoup de circonstances, à s'isoler, etc. Pour que les mesures soient acceptables, il faut aussi que les mesures ne soient pas trop punitive. C'est à ceux qui vous représentent d'estimer ce qui permet d'avoir d'entretenir l'espoir et l'impression de ne pas être trop puni. Et alors, c'est pas moi, je suis pas un spécialiste pour savoir si le Tour de France est du côté, ça fait plutôt du bien aux gens et ça peut les aider à supporter cette période, ou si c'est trop dangereux, d'où, voilà. Donc, mais le type de raisonnement, c'est comment est-ce qu'on peut mettre des contraintes sans tomber dans le punitif qui rend ces contraintes tellement insupportables que finalement elles sont balayées.
Oui, et puis Roger disait, à un moment, on comprend plus la logique qu'il peut y avoir entre telles interdictions et telles autorisations. Retournons au standard. Anthony, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à toute l'équipe. Martin Hirsch, bonjour. Je vous entends dire que vous êtes en colère, moi aussi. Ma question est simple. Je suis infirmier, actuellement en cours de formation de spécialisation en anesthésie. J'ai été mobilisé en mars et avril en réanimation Covid à l'APHP pendant toute la crise sanitaire que l'on a connue, et donc mis à disposition de l'APHP. À ce jour, comme un certain nombre d'étudiants des filières soignantes, mais aussi, je pense notamment aux intérimaires mobilisés à l'APHP, on se voit tous refuser la prime Covid promise. Tous les protagonistes et autorités sanitaires sont sourdes, APHP, ARS Île-de-France, etc. Je demande donc à Martin Hirsch quel est le recours possible et concret.
Merci Anthony pour cette question. Martin Hirsch vous répond.
Alors, les étudiants infirmiers, comme j'imagine c'est le cas de cet auditeur, normalement, quand ils sont en stage, ont une indemnité d'environ 150 euros par mois. Pendant la période Covid, ils ont eu une indemnité de 1500 euros par mois. Donc on a beaucoup augmenté, ils ont beaucoup donné et ils ne sont pas prévus dans le décret sur la prime, en considérant que cette indemnité mensuelle qui était de 1500 euros par mois est mutantis, ce qui correspond à la prime qu'ont eu les professionnels. Quant aux intérimaires, ceux qui ont fait le choix de l'intérim, sont employés par leur société intérim, pas employés par l'AP, et donc l'AP ne peut pas donner des primes Covid à des gens qui dépendent d'autres employeurs qu'elles-mêmes.
Alors, il y a pas mal de questions autour de ce thème-là. Celle de Guillaume, médecin hospitalier, est la plus frappante. Comment Martin Hirsch peut-il arriver à dormir la nuit en écrivant des livres et en pleurant sur le sort des médecins en plateau, alors qu'il a été sourd à toutes les demandes d'infirmiers et de médecins urgentistes les années précédentes? Que répondez-vous à Guillaume ?
Que j'ai été pas sourd avant, que le Covid ne m'a ni rendu sourd, ni rendu louis tout d'un coup, et que tout le monde sait que cela fait plusieurs années que je dis et que j'écris qu'il faut augmenter les rémunérations, notamment plus des infirmières que des médecins, mais des infirmiers, des aides-soignants, sinon l'hôpital ira mal, je l'ai dit depuis longtemps. Le Ségur l'a entendu, comme il a entendu les grévistes. Et je raconte dans ce livre, d'ailleurs, comment on rentre dans la crise dans les pires conditions, après un an de grève très très compliquée, et avec des revendications qui ont été en grande partie satisfaites.
Martin Hirsch, l'Allemagne a classé cette nuit les zones Île-de-France et PACA en zone à risque. Qu'en pensez-vous ?
Que nous aussi, on les classe en zone à risque.
Donc ils ont raison de faire une quarantaine pour toute personne qui vient d'Île-de-France.
Nous aussi, quand on regarde les données Île-de-France et PACA, ce sont deux régions dans lesquelles on trouve que le taux d'incidence, le nombre de positifs qu'on trouve pour 100 000 habitants, est élevé et justifie qu'on les traite comme des
zones à risque. Est-ce que vous pouvez
nous
donner ce matin les chiffres de la PHP ?
Ça dépend lesquels.
Le nombre d'hospitalisations.
Oui, alors je peux vous donner ceux d'Île-de-France et la PHP représente environ 40% de l'Île-de-France. Il y a aujourd'hui en réanimation en Île-de-France 175 patients. Il y a aujourd'hui dans les services d'hospitalisation classique 1000 patients. Et il y a aujourd'hui dans les services de soins de suite, c'est-à-dire après réanimation, 1400 patients.
Toute dernière question de David sur l'application Inter. J'ai un cancer qui a grossi de 10 cm depuis le début du Covid. J'attends le résultat de la biopsie depuis 2 mois. On me répond que je ne suis pas prioritaire à cause du Covid. Pourquoi depuis des mois vous laissez tomber les autres malades? Vous nous laissez mourir?
Alors, je ne sais pas pour David, et si c'est dans un hôpital de la paix, il faut qu'on regarde ce qui se passe. Et il n'est pas envisageable qu'on lui ait répondu « Vous avez une tumeur de 10 cm et ça n'est pas prioritaire pour nous », puisque les tumeurs sont prioritaires, y compris pendant Covid, pendant la période de très grande activité de mars-avril, on a tous eu cette inquiétude de patients qui venaient plus ou qu'on ne pouvait pas bien prendre en charge, et on met les bouchées doubles depuis pour rattraper ce retard. Donc il n'y a aucune négligence par rapport à une situation telle qu'elle est décrite, mais on pourra regarder le cas si nécessaire.
L'énigme du nénuphar face au virus, publié chez Stock et signé Martin Hirsch. Ça va, ça a été l'interview ce matin, parce que vous avez une page dans le livre où vous dites qu'on n'a pas été gentil la dernière fois avec Léa. Ça va?
Mais je dis que je suis habitué à ce qu'on ne cherche pas la gentillesse, mais c'était juste pour vous montrer que c'est une période où on avait aussi, je pense que tous les soignants qui écoutent comprennent ce que je veux dire, une sorte de besoin d'affection.
Voilà. Oui. C'est pas si mal d'avoir besoin d'affection. Vous dites 10 pages après, les journalistes, plus ils sont sympas, plus c'est les pires. Donc je sais pas si on va le prendre bien comme un
faut faire le tri entre vos demandes. Merci en tout cas.
C'est que chacun en fasse notre travail et qu'on puisse dire les choses dans leur réalité.
Merci.